France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Il y a 80 ans et un jour, le fonctionnement de la sécurité sociale et donc sa naissance était définitivement acté via les ordonnances du 4 puis du 19 octobre 1945. Retour en première partie d'émission sur 80 années donc de réformes menées au nom souvent de la contrainte budgétaire et donc d'une certaine efficacité, mais laquelle au juste, nous en parlerons avec le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie Thomas Fatome et l'économiste Victor Duchesne. Et puis en seconde partie, nous entamons une nouvelle série consacrée justement à l'évolution de notre modèle social. Prospérité, baisse des inégalités, voire abondance. Et si le pacte social censé assurer un minimum de cohésion sociale était avant tout fondé sur des promesses matérielles? Et que se passe-t-il lorsque ces dernières ne sont pas ou plus tenues? Et comment continuer à consentir à faire société lorsque l'horizon n'est plus celui de la croissance? Nous ouvrons cette série de discussions avec la philosophe, sociologue et économiste Dominique Méda. Mais avant cela, une parenthèse sur l'actualité qui a marqué la semaine passée. Nous avons désormais un Premier ministre, un gouvernement et peut-être même bientôt un budget. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a commencé ce matin à 9h à examiner le projet de budget de l'État pour 2026. Le but du texte en l'état, ramener le déficit public à 4,7% du produit intérieur brut. Mais tout est bien sûr et plus que jamais affaire de compromis. Pour l'instant, c'est la partie recettes qui est examinée et qui passera devant l'Assemblée nationale vendredi et qui devrait être soumise au vote le 4 novembre prochain. Si vous n'avez pas la patience d'attendre jusque-là, et j'avoue moi-même je ne l'ai pas, vous pouvez construire votre propre budget. Jeudi dernier, le Conseil d'analyse économique a publié un nouveau rapport intitulé « Comment stabiliser la dette publique ?» Point d'interrogation, il est important. Et mettre à disposition un site réalisé par Mathieu Perrouillero, administrateur principal au secrétariat de la Présidence et au bureau du Sénat, où vous pouvez, bloc par bloc, ajouter une mesure, en retirer une autre, le tout étant chiffré jusqu'à atteindre le chiffre de 112 milliards d'économies à réaliser si l'on veut ramener le déficit public sous les 3% en 2029, ce qui semble pour l'instant très incertain au vu des assouplissements envisagés par le gouvernement en la matière. Des assouplissements nécessaires, car évidemment tout cela se fait dans un contexte pour le moins complexe. Au niveau national, bien sûr, au vu des tensions politiques qui ont accompagné la formation de ce nouveau gouvernement, mais également international, puisque l'agence de notation S&P Global Ratings a annoncé vendredi soir que la note de la France passait de A à moins à A+. Argument évoqué, l'incertitude élevée sur les finances publiques, dont la suspension de la réforme des retraites annoncée mardi dernier serait la preuve, et plus globalement, l'instabilité la plus sévère depuis la création de la Ve République, je cite là le communiqué de S&P, une instabilité qu'on ne cesse de vouloir à tout prix chiffrer. L'OFCE, dans un rapport publié mercredi dernier, a estimé que l'incertitude politique qui règne depuis le mois de juillet 2024 coûterait 20 milliards d'euros à la France entre 2025 et 2026, et on parle là de choses très concrètes. Ce sont 160 000 destructions de postes sur 2025 et 2026 qui sont concernées. Je vous encourage à aller lire les témoignages qu'ont recueillis Bastien Bonnefou et Béatrice Madeline dans un article consacré au sujet publié vendredi dans le journal Le Monde. Mardi dernier, l'entourage de Gérald Darmanin confie à l'AFP que la chute du gouvernement coûterait plus d'argent qu'une suspension de quelques mois de la réforme des retraites. Tout est donc affaire de calcul au premier sens du terme. De blocage et d'incertitude, il est aussi question aux États-Unis où le shutdown, soit la paralysie de l'administration américaine, est toujours de vigueur et ce depuis 19 jours et une poignée d'heures, et pèse aussi sur l'économie. Selon un rapport du Trésor américain publié mercredi, il s'agirait de 15 milliards de dollars perdus par semaine, ce qui est toujours moins que les 15 milliards de dollars par jour estimés par le secrétaire du Trésor, justement Scott Bessent, juste avant la publication de ce rapport. Alors certes, quand je me compare, je me console. Une bien pauvre maxime, mais dont on ne peut que se contenter pour le moment. Et je referme là cette parenthèse, place à notre question d'actualité du jour.
Notre programme vise dans un proche avenir à étendre l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à réaliser la sécurité le plus parfaitement possible. Le 1er janvier prochain, les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre sur le régime des assurances sociales rentreront en vigueur. Le 1er juillet 1946, commenceront à fonctionner les nouvelles caisses de sécurité sociale et les nouvelles caisses d'allocation familiale.
Les 4 et 19 octobre 1945, le gouvernement provisoire de la République française définissait les modalités de fonctionnement de la sécurité sociale, dont Ambroise Croizat, alors ministre du Travail, rappelait le 26 décembre 1945 les principes. Et quasiment dès sa création, les réformes se sont enchaînées à un rythme plus soutenu à partir des années 70. Car au fur et à mesure que l'économie du pays évolue, se mondialise, il semble aller de soi que la sécurité sociale fasse de même et s'adapte. Mais au nom de quoi et avec quelle ligne de conduite la sécurité sociale, c'est aussi 80 ans de contradictions, très souvent résumées par un procès en inefficacité inhérent au système. Alors de quoi parle-t-on vraiment dans un contexte où le déficit de la sécurité sociale atteint 23 milliards d'euros en 2025 et que le projet de budget de la sécurité sociale présenté mardi 14 octobre en Conseil des ministres prévoit de réduire à 17,5 milliards d'euros en 2026? Comment penser un système dit efficace? C'est ce que nous allons demander à nos deux invités, Victor Duchesne, maître de conférence en économie à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, et Thomas Fatome, directeur général de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Sécurité sociale, 80 ans de réforme pour quelle efficacité? C'est la question d'actu aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho.
La sécurité sociale de 45 n'a rien à voir avec la sécurité sociale d'aujourd'hui. Elle ne concernait que les salariés, les cotisations étaient plafonnées, les prestations, il y avait des tickets modérateurs surtout, il n'y avait pas de soins de longue durée. Elle n'a cessé d'élargir ses prestations, d'élargir ses coûts. Donc elle s'est alourdie, elle s'est généralisée, elle a des prestations beaucoup plus généreuses. Donc si vous voulez, elle a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reviendrait à la sécu de 45, ce serait une catastrophe, les gens ne voudraient pas.
La voix de l'économiste de la santé Claude Le Pen, décédé en avril 2020. Il était alors invité de l'émission de Dominique Roussel, L'économie en question, qui célébrait alors le 70e anniversaire de la sécurité sociale. C'était le 3 octobre 2015. Victor Duchesne, je précise que votre thèse, soutenue en 2021, a proposé une histoire économique de l'étatisation de la sécurité sociale. Est-ce que vous souscrivez aux propos de Claude Le Pen que l'on vient d'entendre? Est-ce que véritablement personne ne voudrait revenir à la sécurité sociale de 1945?
Je pense qu'un certain nombre de gens y voudraient revenir. Mais si on se place sous l'angle de Claude Le Pen, c'est-à-dire qui est en termes de générosité des prestations, si on nommait un peu la dernière décennie, pour pas dire un petit peu plus, on a effectivement une sécurité sociale qui aujourd'hui est plus généreuse que la sécurité sociale à sa création. Ça se voit notamment sur le montant, certains montants d'allocations familiales, ça se voit notamment sur les règles de retraite où il faut attendre les années 70 pour que la sécurité sociale de 45 devienne vraiment généreuse. Et en matière d'assurance maladie, il y avait quand même un projet de réduire progressivement le ticket modérateur, la part non remboursée des soins. La réforme de 67 a essayé d'y mettre un petit peu un terme. On a été à seulement 20% à une époque. On est à 30 et peut-être demain 35 ou 40. Donc voilà, il y a ces idées-là. Après, en termes de gouvernance, en termes de mode de financement, là, effectivement, il y a des choses dans le modèle de 45 qui seraient sûrement peut-être à retrouver si on suit certains observateurs.
Parce qu'il y avait effectivement une ambition de démocratie sociale au sein de la sécurité sociale. Thomas Fatome, est-ce que de ce point de vue-là, du point de vue aussi de Claude Le Pen, la sécurité sociale, c'est avant tout l'histoire d'un succès, selon vous?
En tous les cas, comme M. Duchesne vient de le dire, c'est cette sécurité sociale, elle a grandi, elle a élargi son champ d'action, elle a accompagné des évolutions démographiques et économiques du pays majeur. Et de ce point de vue-là, on peut se dire que, si je reste pas juste sur le champ de l'assurance maladie, elle a, par exemple, très fortement diminué la pauvreté chez les personnes âgées, les personnes retraitées. Il y en a bien sûr encore, mais 10% de retraités aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, c'est 20% en Allemagne. Elle a considérablement accompagné aussi l'évolution technologique de la prise en charge des soins, des médicaments très coûteux, très innovants, des prises en charge à l'hôpital. Notre système de santé, évidemment, heureusement, il a rien à voir aujourd'hui avec ce qu'il était en 45. Donc, de ce point de vue-là, elle a été, je crois, porteuse, si on regarde sur longue période, il y a des défis aujourd'hui, mais de succès importantes. Je ne parle même pas de l'espérance de vie, qui a évidemment considérablement augmenté, y compris l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans. Donc oui, de ce point de vue-là, je crois qu'elle est quand même fidèle à sa promesse.
Et pourtant, oui, notre modèle d'assurance maladie universelle est en danger. Thomas Fatome, voilà ce qu'on peut lire à la première page d'un rapport rendu en juillet dernier par l'assurance maladie, dont vous êtes le directeur général, un rapport intitulé « Charges et produits ». Thomas Fatome, d'où vient le danger principal?
Le danger, c'est vrai, aujourd'hui, c'est un enjeu d'un déséquilibre financier qui est très significatif, qui a des raisons conjoncturelles hein, pour l'assurance maladie, il faut le dire, notamment un investissement très important qui a été fait dans le cadre du Ségur de la Santé, une augmentation très importante, légitime, des salaires, principalement à l'hôpital, un peu en ville aussi, c'est 13 milliards d'euros et en face de ça, il n'y a pas eu de financement dédié. Mais ce qui est, entre guillemets, plus inquiétant, en tout cas, qui peut interroger, c'est plus structurel, c'est-à-dire le poids, l'impact de la démographie avec une augmentation bien sûr du poids des personnes âgées, le poids de l'épidémiologie, toujours plus de maladies chroniques, plus de diabète, plus de cancer. Et ça, c'est une pression très significative sur les dépenses qui, c'est ce qu'on a illustré dans notre rapport de cette année, à ISO, on va dire entre guillemets recettes et dépenses, c'est un déficit qui s'accroît de 5 milliards par an, donc qui pose évidemment la question de la soutenabilité. Là aussi, la démographie, l'état de santé de la population d'aujourd'hui, évidemment, elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 50 ans ou même il y a 80 ans.
Et c'est intéressant, quelque part, finalement, ce qui faisait le succès même de la sécurité sociale, à savoir l'allongement de l'espérance de vie, est aussi une des raisons pour laquelle aujourd'hui elle est en difficulté. Il y a une forme de paradoxe. Victor Duchesne, est-ce que vous partagez ce constat? Finalement, c'est la question démographique qui est en premier plan lorsqu'on parle des dangers qui menacent l'assurance maladie, puis plus généralement la sécurité sociale.
Alors, il est clair qu'en termes de dynamique de dépenses, c'est bien le vieillissement de la population et les questions démographiques plus généralement. On a un effet ciseau qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un vieillissement de la population, donc plus de dépenses à la retraite, des dépenses de santé plus importantes, et de l'autre côté, une baisse de la natalité, alors qui réduit très faiblement les dépenses, les besoins de dépenses d'allocation familiale notamment, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire du côté de la branche famille. Donc voilà, d'un côté, on a cet allongement des dépenses et de l'autre côté, on a une réduction à terme de la dynamique du fameux ratio cotisant sur actif, si je prends la branche retraite. Après, c'est une question qui peut quand même être relativisée du point de vue notamment des recettes potentielles de la sécurité sociale. Ce qui compte, c'est bien sûr la question démographique, mais c'est aussi la richesse créée en contrepartie par le dynamique démographique. Et la France, qu'on le veuille ou non, même s'il y a un ralentissement, même si c'est compliqué, la France n'a jamais été un pays aussi riche, en fait, hein, si on compare surtout par rapport à 45, qui est le pays est ruiné, détruit matériellement, humainement, et politiquement, bien évidemment. Et donc là, aujourd'hui, il faut regarder d'un côté ces questions démographiques, qui sont un sujet à part entière, mais également trouver les recettes nécessaires du côté de la création des richesses, notamment.
Thomas Fatome, quelques chiffres pour qu'on comprenne bien ce dont il s'agit. Le déficit de l'assurance maladie, à ne pas confondre avec la sécurité sociale dans son ensemble, et dont vous êtes, je le rappelle, le directeur général, s'établit à 13,8 milliards d'euros. Il était de 11,1 milliards d'euros en 2023. Très concrètement, Thomas Fatome, et ça me tenait à cœur de le savoir, qui détient la dette, finalement, de l'assurance maladie? Est-ce que cela pèse aussi dans l'aggravement, on va dire, de ce déficit?
Alors la différence entre l'État et la sécurité sociale, c'est important qu'on se le dise, c'est que ces sujets de déficit et de dette, entre guillemets, ils sont cantonnés. En 1996 a été créée la CADES, qui reçoit, entre guillemets, l'ensemble des déficits successifs. Alors, à échéance régulière, le Parlement a voté des transferts de déficits vers la CADES. Et cette CADES-là...
La CADES qui est la Caisse d'amortissement de la dette sociale, je le précise.
La dette sociale, excusez-moi. Et qui est financée par la CRDS, la contribution au redressement de la dette sociale, que quasiment tous les Français payent, parce que c'est une des contributions qui a l'assiette la plus large. Et donc, la différence avec l'État, c'est que, entre guillemets, la sécurité sociale, elle rembourse à la fois les intérêts et le capital. C'est quelque chose qui est fermé. L'État, c'est pas pareil. L'État, vous remboursez évidemment d'abord les intérêts. On refinance de la dette régulièrement. Et donc aujourd'hui, au moment où on se parle, la CADES, elle a une durée de vie qui va jusqu'en 2033. Néanmoins, ce qu'on voit là depuis quelques années, c'est que les déficits annuels, eh bien, évidemment, sont importants. Et donc, va se poser la question, à un moment ou à un autre, dans les prochains mois, les prochaines années, de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce déficit, parce que il est financé à court terme. Aujourd'hui, par ce qu'on appelle l'URSSAF Caisse Nationale, qui va sur les marchés pour se financer. Mais ça tient qu'un temps, entre guillemets, parce que si vous regardez le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, on est en train de monter à ce qu'on appelle les niveaux de plafond de trésorerie auxquels l'URSSAF Caisse Nationale est autorisée à emprunter, à des niveaux historiquement très élevés, plus de 80 milliards d'euros. Donc voilà comment ça marche aujourd'hui, avec une dette qui est détenue à la fois par à l'étranger et en France. Hein. Ça c'est un peu comme la dette publique française classique, mais voilà, avec cette différence qui est quand même importante, c'est qu'on fait du déficit, on fait de la dette, mais on rembourse le capital et on le rembourse dans des délais bien identifiés.
Victor Duchesne, je vous ai bien entendu. Vous l'avez dit, le problème, c'est celui des dépenses à cause d'une, on va dire, d'un facteur très structurel qui est celui de la démographie. Il faut aussi se pencher du côté des recettes. Alors là, on peut réélargir la focale à la sécurité sociale dans son ensemble et non plus uniquement à l'assurance maladie. Le déficit de la Sécu est reparti à la hausse en 2024. Il devrait encore augmenter en 2025. Il y a là encore un effet de rattrapage vis-à-vis des dépenses et des moindres recettes, notamment liées à la TVA, qui sont liées à la crise sanitaire du Covid-19, qui avait aussi pesé sur les comptes de l'assurance maladie. Mais un rapport de la Cour des comptes de mai 2025 pointe un autre mouvement de fond, celui de la politique d'exonération de cotisations sociales et les exemptions de cotisations. Mais Victor Duchesne, il faut nous expliquer là quelque chose. Est-ce que l'État n'était pas censé compenser ce manque à gagner initialement?
Alors, l'État compense l'essentiel des exonérations de cotisations sociales. Il le compense par affectation d'une partie des recettes de TVA, ce qui fait qu'il y a un système très pervers qui est de dire que aujourd'hui les politiques de l'offre, vous receviez la semaine dernière Clément Carbonnier, si je ne me trompe pas, et qui montre en fait comment ces politiques de l'offre-là en faveur de l'emploi, finalement, pèsent sur les dépenses sociales et pèsent en réalité sur les dépenses publiques, puisqu'il y a compensation. Mais le souci de l'affaire, c'est que l'État ne compense pas entièrement. Alors on parle de 3 milliards d'euros, c'est pas non plus si important que ça, mais ça l'est toujours. Et puis, il y a en parallèle des exonérations de cotisations sociales, il y a ce qu'on appelle les exemptions de cotisations sociales, c'est-à-dire qu'on va estimer qu'un certain nombre de revenus ne rentrent pas dans l'assiette qui doit être touchée par les cotisations sociales, voire même par la CSG. Et là, quand vous regardez, malgré la fiscalité résiduelle qui existe, on parle plutôt de 14 milliards d'euros. Donc là, on a une source de financement assez importante. Et on pourrait ajouter peut-être une troisième dimension qui renvoie à un aspect très historique de la sécurité sociale, qui est que l'assiette la plus dynamique, hein, ce qui est créateur de richesse dans nos économies, c'est bien le monde du travail, ce sont les salaires. Et donc, si vous passez par d'autres ressources de financement, bah, mécaniquement, vous atténuez progressivement les recettes de la sécurité sociale, plus peut-être des erreurs de compte, de compensation éventuellement.
Thomas Fatoum, vous souhaitiez réagir.
Juste un point, et je ne suis pas économiste, mais je pense quand même qu'on peut se rejoindre que sur longue période, la TVA, elle va à peu près à la même vitesse que la masse salariale. Et de fait aussi, le fait qu'on puisse adresser qu'en parallèle de l'extension de son champ, la sécurité sociale, elle a diversifié son mode de financement, qu'elle était bien sûr assise historiquement sur les cotisations sociales et qu'elle reste majoritairement encore assise sur le travail, qu'elle aille identifier d'autres recettes pour, quelque part, financer justement des dépenses en augmentation, me paraît pas inadéquat, sans aller en même dans le débat sur salaire brut, salaire net, sur ce genre de choses. Mais de ce point de vue-là, il y a quand même une cohérence avec la création de la CSG. D'autres recettes qui viennent financer la sécurité sociale. Je pense que c'est une évolution qui est en lien avec l'objet même de la sécurité sociale qui a évolué dans le temps.
Victor Duchesne, très rapidement, vous souhaitez
réagir. Alors, ce qu'évoque Thomas Fatoum, c'est en fait la justification de l'élargissement des financements de la sécurité sociale compte tenu de son universalisation. Alors, la sécurité sociale couvrait l'ensemble de la population, enfin l'essentiel de la population à sa création, donc là, il y aurait un point de débat, mais c'est surtout pour dire que lorsqu'on regarde l'exemple de la CSG, 70% de ce que rapporte la CSG vient des revenus d'activité, 20% des revenus dits de remplacement, qui sont versés par la sécurité sociale elle-même. Donc, c'est en fait une reprise sur prestation, à bien des égards, d'un point de vue strictement économique. Et 10% seulement viennent des autres assiettes, alors quelques revenus du capital et des jeux. Donc, la diversification, elle existe indéniablement d'un point de vue comptable, d'un point de vue strictement économique. À la fin, c'est bien les salaires qui payent.
On le comprend, quelles que soient les interprétations, en tout cas les points de vue, c'est bien la question du déficit qui occupe aujourd'hui majoritairement les discours dès lors que l'on parle de la sécurité sociale. C'était déjà le cas en 1967. L'argument devient d'autorité et vient justifier une réforme majeure, celle portée par Jean-Marcel Jeanneney, alors ministre des Affaires sociales. On l'écoute.
Ce qu'il y a, car il faudrait tout de même faire des économies, c'est que le remboursement pour les actes médicaux, c'est-à-dire la consultation, la visite et les autres actes médicaux, sera désormais de 70%, comme pour les produits pharmaceutiques, alors qu'antérieurement il était de 80%. Ce n'est pas une très grosse différence, mais c'en est une, je le reconnais. Ce qui est très important dans les réformes que nous faisons, c'est qu'elles tendent à introduire beaucoup plus de clarté dans l'ensemble de ces choses, et notamment dans les comptes. Nous affectons des cotisations à la maladie, nous affectons une cotisation à la vieillesse, alors qu'avant tout était mélangé. Et nous créons trois caisses distinctes, si bien que les cotisants, les Français qui payent des cotisations, sauront exactement pourquoi ils les payent. et que les droits des vieillards, des malades, des familles seront des droits qu'ils exerceront à l'encontre d'une caisse qui sera la leur, en quelque sorte.
Autrement dit, vous ne voulez pas régler seulement le problème du déficit immédiat, mais voir beaucoup plus loin.
Oui, et faire que les Français comprennent davantage que la sécurité sociale, c'est leur chose. C'est leur chose, et non point une sorte de manne qui tomberait du ciel.
C'était le 10 août 1967, vous entendiez le ministre des Affaires sociales, Jean-Marcel Jeanneney, qui donnera son nom aux ordonnances de 1967 qui acte la création de 3 caisses nationales de sécurité sociale. Une pour l'assurance maladie, la CNAM, c'est donc votre véritable anniversaire finalement, Thomas Fatome. Les allocations familiales, la CNAF, et l'assurance vieillesse, la CNAV. Victor Duchesne, en quoi ce moment de 1967 est-il un tournant selon vous ?
Ah, il est un tournant parce qu'il est retenu traditionnellement pour, bien sûr, le changement dans la gouvernance. On passe d'une démocratie sociale élective, hein, avec des élections tous les 5 ans, d'ampleur équivalente aux législatives en termes de taux de participation, à un système dit de démocratie sociale paritaire où, sur proposition des organisations syndicales et des organisations patronales, vous avez une nomination des représentants qui reste encore la modalité dominante, alors modulo à l'assurance maladie où il y a eu quelques évolutions en 2004, mais voilà, c'est ce changement politique-là. Et puis l'autre point clé, c'est la question de la gestion, puisque c'est ce qu'explique Jean-Marcel Jeanneney, qui est économiste d'ailleurs, qu'il s'agit de responsabiliser les gestionnaires. C'est vraiment cette idée-là, par affectation des ressources à une branche spécifique pour qu'on trace la chose. Alors, la question de la clarté des comptes en matière de politique sociale, elle est très ancienne, hein, puisqu'elle date dès les années 60, un certain nombre de rapports s'inquiètent, on n'arrive pas à comprendre d'où viennent les augmentations des dépenses de santé, etc., etc. Ce qu'on constate après coup, c'est qu'en réalité, cette affectation des ressources, il est strictement artificiel, puisqu'en fait, on jongle entre les taux de cotisation, entre les recettes, entre les différentes branches. En ce moment, c'est particulièrement important. On affecte un coût, une fraction de TVA, un coût, une autre, etc. Et ce qu'on regarde au final, et ça a un côté certaines fois un peu injuste pour certaines branches, notamment pour l'assurance maladie, c'est qu'on regarde bien le déficit global, en réalité, de la sécurité sociale. Si vous prenez le premier article du PLFSS aujourd'hui, c'est bien le déficit global qui compte. Et après, seulement on regarde. Et donc, c'est cet enjeu d'équilibre-là. Donc, c'est ce côté un peu artificiel.
Thomas Fatome, est-ce que vous avez ce sentiment d'injustice qu'évoquait à l'instant Victor Duchesne ? Et puis, autre question qui est très importante, parce que je trouve ça important de marquer ce changement-là. Est-ce que vous avez l'impression, effectivement, d'être rentré dans cette logique gestionnaire ?
Très honnêtement, je crois pas que, quelque part, en 67, on ait découvert la nécessité d'une bonne gestion des finances de la sécurité sociale. Et de temps en temps, je ne vous vise évidemment pas, monsieur Duchesne, mais on a l'impression qu'il y avait des pères fondateurs qui voulaient faire une sécurité sociale toujours plus généreuse. Et puis, de l'autre côté, des gestionnaires qui sont arrivés pour réduire les dépenses, etc. Je pense que le modèle, il est très singulier, en réalité, entre assurance et solidarité, entre paritarisme et l'État. Il est très spécifique à la France. Il n'y a pas un autre système qui est comparable. Et à un moment donné, c'est vrai que assurer la bonne gestion transparente de financement considérable, puisque bien supérieur à ceux de l'État, plus de 650 milliards d'euros, même bien davantage, implique une bonne gestion de ces ressources, implique une gestion transparente. Et si j'ai juste 30 secondes, au mois de juillet, on a par exemple fait un petit tableau très simple qu'on a diffusé largement dans les réseaux sociaux et qui a été très repris, c'est à quoi sert 1000 euros l'assurance maladie. Pour nous, en tant que gestionnaire, entre guillemets, vous le disiez, c'est évident, on sait que la part qui va à l'hôpital, aux médicaments, aux arrêts de travail, à la gestion interne, au passage seulement 30 euros pour la gestion du système, c'est très faible en termes de frais de gestion, ça a eu un énorme écho. Et on va le refaire, parce que donner à comprendre, tout simplement, il ne s'agit pas de rentrer dans les débats, de responsabiliser, etc., mais informer à quoi servent 1000 euros d'assurance maladie, ça fait partie de notre responsabilité, je pense que ça fait partie aussi du débat public autour de la sécurité sociale.
Victor Duchesne, je vous passe la parole dans un instant. Thomas Fatome, j'ai une question pour vous avant que cette émission ne se termine, une question qui me tenait à cœur, et parce que nous avons notamment préparé cette émission et nous en avons parlé ensemble, on voit que les ménages ont payé en moyenne 292 euros de leur poche en 2024 pour financer leurs dépenses de santé, montant qui était de 276 euros en 2023. On a rappelé en tout début d'émission le but initial de la sécurité sociale en 1945. Est-ce que les démarches qui consistent à prendre des mesures de déremboursement, à augmenter les franchises, c'est considéré comme un échec selon vous ?
Ah, en tout cas, la promesse de la sécurité sociale, c'est d'assurer un haut niveau de couverture. Vous avez parlé de ces 292 euros. Quand vous comparez aux autres pays, notamment de l'OCDE, on est vraiment parmi les deux ou trois les plus faibles du monde.
Mais est-ce que chaque augmentation...
À chaque fois, se dire comment on peut préserver notre système de remboursement en agissant sur la qualité des soins, l'organisation des soins, la bonne prescription, c'est évidemment ça qu'on essaye toujours de privilégier.
Victor Duchesne, je vous laisse le mot de la fin.
Sur la question de la démocratie sociale, il y avait cette information et cette transparence-là, puisqu'il y avait campagne, il y avait représentants des assurés sociaux de manière plus active qu'aujourd'hui. Et sur la question des franchises, hein, toute augmentation des franchises est de fait un recul pour l'assurance maladie, puisqu'elle se traduit par des politiques plus inégalitaires. Donc là, c'est indéniable.
Merci infiniment Victor Duchesne et Thomas Fatome d'avoir participé à cette émission. J'espère avoir l'occasion de vous recevoir à nouveau pour parler notamment des économies de rente qui concernent aussi largement l'assurance maladie et la sécurité sociale dans son ensemble. Et tout de suite, place à notre seconde partie d'émission où l'on revient aux racines de notre modèle social en compagnie de la philosophe et sociologue Dominique Méda.
Nous allons à la prospérité, j'en suis sûr. Nous allons à la vie meilleure. Nous allons à la vie plus digne.
France Culture.
Quelle serait la situation de bon nombre de mes compatriotes si aujourd'hui nous n'avions pas le système de protection sociale que nous avons, qui leur permet de conserver leur dignité? Ils seraient dans un état de misère que nous aurions du mal à soutenir.
Entendez-vous l'écho?
Était-ce le prélude d'une ère nouvelle où l'abondance permettrait de supprimer la misère? Beaucoup d'économistes le croyaient.
Cette société est capable aujourd'hui, en fonction de la croissance, de fournir à tous, et si c'est possible indistinctement à tous, une profusion de biens.
Aliette Ovine.
Au nom de quoi accepte-t-on de faire société? Pourquoi accepte-t-on les règles en vigueur, de payer nos impôts, de se conformer aux contraintes administratives? La question est bien, bien loin d'être nouvelle. C'est peu dire qu'elle a alimenté nombre de réflexions philosophiques autour de la notion de contrat social. Mais c'est une question permanente, fondamentale, à laquelle la construction de notre modèle social était censée répondre en garantissant la juste répartition des fruits de la croissance et en assurant chaque individu un filet de sécurité matérielle. Les institutions de ce modèle social, à commencer par la sécurité sociale dont on fête cette année, je le rappelle, les 80 ans, pouvait être vue comme une façon de garantir cette cohésion sociale, cette adhésion au corps social. Mais cette vision n'est d'une part pas partagée par tous et surtout pas par tous les économistes. Et surtout, on semble aujourd'hui en péril au gré des discussions budgétaires dans un contexte de croissance bien plus morose que lorsque ces institutions ont été pensées. Une croissance qui, par ailleurs, ne semble être même plus un horizon souhaitable au vu des dégâts environnementaux qu'elle provoque. Alors comment continuer à faire corps? L'idée d'un contrat social matérialiste a-t-il en quelque sorte vécu? Et quel horizon désirable proposer pour l'ensemble des individus qui composent la société? Toutes ces questions, Dominique Méda, professeur de sociologie à Paris-Dauphine PSL et présidente de l'Institut Veblen, s'en est saisie. Et c'est la raison pour laquelle elle est notre invitée aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho.
Ce que j'ai indiqué par la théorie du contrat social, c'est que les conditions de la vie de la société, la place de l'homme dans la société, notamment du travailleur, sont complètement modifiées par le phénomène de l'expansion continue et importante tel qu'il est maintenant définitivement acquis depuis la fin de la guerre, ou si vous voulez, surtout depuis la période de 1950 à 1960. À ce moment-là, les classes ou les catégories de la population qui, dans la société, s'estiment désavantagées, au lieu de recourir à des voies révolutionnaires, peuvent espérer prélever une part supérieure de rétribution, de contribution, sur l'augmentation graduelle de la richesse nationale qui intervient tous les ans. Si vous songez que dans l'espace d'une quinzaine d'années, le revenu national double, qu'il quadruple donc dans l'espace de 30 ans, enfin un peu moins ou un peu plus, il est certain que c'est tout de même une grande possibilité pour chaque personne que de pouvoir quadrupler en 30 ans son niveau de vie. Si de surcroît, nous pouvons considérer que des procédures de direction, d'orientation de l'économie permettent d'avantager les classes les plus malheureuses dans cette répartition supplémentaire, je crois qu'on peut très bien faire l'économie d'une révolution.
Dominique Méda, bonjour.
Bonjour.
Je voulais commencer cette émission par cet extrait d'une interview d'Edgar Faure datée du 12 mars 1970. Il était alors député du Doubs entre deux postes de ministre, parce qu'il nous permet, cet extrait, de poser les fondements de notre discussion. Ce qu'il dit là, c'est que non seulement la prospérité qui succède à la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la bonne répartition de cette prospérité permettent d'éviter le recours à la révolution, faire l'économie d'une révolution. Donc, on pourrait le dire, de faire société de façon relativement pacifique. Est-ce là, Dominique Méda, la base de notre contrat social actuel, l'idée d'une prospérité partagée garante de la paix?
Oui, je crois que c'est cela qui est affirmé depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et que ce que dit Edgar Faure, donc là, ça nous, c'est vraiment le symbole des Trente Glorieuses, hein. Ce fameux ouvrage écrit par Jean Forestier en 1979, qui s'appelle Les Trente Glorieuses, et on est en plein là-dedans. Une sorte d'optimisme extraordinaire, qui nous dit que, bah voilà, la richesse va continuer à croître. En plus, si on est intelligent, on va bien la redistribuer, c'est toute l'affaire des gains de productivité énormes qu'on fait à l'époque, hein. Et donc tout le monde est content, toutes les classes sociales sont contentes, c'est accompagné d'une forte ascension sociale pour beaucoup de gens, même si le travail reste très dur. Oui, c'est vraiment la base du contrat social de la pré-seconde guerre mondiale.
C'est une base, et on ne laisse pas non plus les choses se faire au hasard, c'est une base qui est institutionnalisée d'une certaine manière, en atteste la création, on en parlait à l'instant, de la sécurité sociale qui fête cette année ses 80 ans. Quelle est la vocation fondamentale de ces institutions? Vous parlez, je crois, dans une tribune publiée dans le journal Le Monde le 27 septembre dernier, d'une révolution conceptuelle pour qualifier cette institution qu'est la sécurité sociale.
Par exemple. Oui, c'est une révolution complète, parce que, alors je me suis beaucoup intéressée à l'exposé des motifs de l'ordonnance de 45. C'est un texte absolument fabuleux qui nous dit que cette institution, elle est là pour ôter aux travailleurs le complexe d'infériorité qui est le leur, parce que à tout moment pèse sur eux la menace de la misère versus les possédants sûrs d'eux-mêmes. Donc il y a une affaire de lutte des classes là, en plein milieu de cet exposé des motifs.
La révolution, on y revient.
Exactement. Et donc on va l'éviter, cette révolution, hein. On va faire se rapprocher les classes en redistribuant, ça aussi c'est extraordinaire, on va redistribuer le revenu national en prenant sur les classes favorisées pour les donner aux classes défavorisées. Donc c'est vraiment c'est très très fort, hein.
Mais là, Dominique Méda, pour bien comprendre, de quoi s'agit-il vraiment? Est-ce qu'il s'agit de l'idée de la redistribution et donc d'une forme de justice sociale? Ou bien est-ce qu'il s'agit, parce qu'on pourrait se dire que toutes ces institutions-là sont là pour garantir un niveau de confort minimal, un niveau d'existence matérielle minimale, est-ce que c'est de cela dont il s'agit? De garantir ce confort ou bien l'idée, on va dire, non pas de prendre aux riches pour donner aux pauvres, mais cette idée quand même de justice. Qu'est-ce qui prévaut entre
les deux? C'est une question super intéressante. Le texte parle bien de justice sociale. Hein. Le fondement de tout ça, est-il écrit, c'est la justice sociale. Mais vous savez qu'on va avoir un balancement en matière de sécurité sociale, un balancement entre la proposition de William Beveridge, qui a écrit en 1942 un rapport très important sur le welfare state, et qui dit qu'en fait, il s'agit de glisser un filet de sécurité sous les pieds des citoyens, et la vision bismarckienne, qui consiste à conserver le niveau de vie des gens. Et en fait, Larocque, qui a beaucoup discuté sur ces questions, il dit que nous voulons un système, en effet, qui va tout couvrir tout le monde. Il y a bien cette idée de justice sociale et de redistribution des riches vers les pauvres, mais en plus, il y a cette idée qu'on va aider les travailleurs à conserver leur niveau de vie quand ils sont malades ou quand ils sont vieux.
Pierre Larocque, qui, je le précise, conseiller d'État et spécialiste des assurances sociales. Il a activement participé aussi à la construction de la sécurité
sociale.
C'est
ça aussi qui est très beau dans cette institution, c'est cette convergence entre différents courants de pensée, on aimerait bien qu'il en aille de même aujourd'hui, entre les communistes, Larocque, qui lui est un conseiller d'État ou fonctionnaire qui a rejoint De Gaulle, et tout ça converge dans le texte du Conseil national de la Résistance et dans ses ordonnances, c'est magnifique.
Alors vous avez mentionné Beveridge, William Beveridge, Sir William Beveridge, même il faut le préciser, qui publie donc en 1942 un rapport fondateur et qui avait été couvert à l'époque par la télévision britannique.
Oxford has had the unusual experience of inspiring reform. Sir William Beveridge, working in the quiet of University College, of which he is master, has produced a social document of revolutionary importance. Into its preparation, Sir William has put the immense store of economic learning, human sympathy, and deep knowledge of social administration accumulated in a long life of service devoted to his fellow men. If the proposals are adopted by the government, no one in Britain who is willing to work will ever again suffer absolute want. A new social era will have been born.
The security plan of Madoff proposes first a unified social insurance system.
Le plan de mon rapport propose tout d'abord un système d'assurance sociale unifié sous lequel, en s'acquittant d'une seule et unique contribution hebdomadaire, chaque individu ainsi que sa famille pourront recevoir toutes les prestations dont ils ont besoin. Le rapport Beveridge, donc, qui, dès 1942, promeut une société dans laquelle l'État aura pour fonction d'assurer le bien-être de tous ses citoyens. Dominique Méda, quelle est la philosophie vraiment de ce texte? D'où vient cette idée qu'un filet de sécurité peut faire société, finalement?
Alors, c'est quand même une... Ça a été très important à l'époque. C'est en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment pour dire, quand on sera sorti de cette guerre, alors on créera vraiment une nouvelle société avec un nouveau rôle donné à l'État. C'est-à-dire que l'État va assumer des fonctions de bien-être pour tous les citoyens. Donc la rupture par rapport à auparavant, par rapport au système qui existait d'assurance sociale, c'est que là, on va couvrir tous les citoyens et plus seulement les travailleurs. Et donc, on va permettre qu'il n'y ait en gros que plus personne ne puisse être touché par des maux sans qu'un grand système vienne aider. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on va mettre en place en même temps, c'est une politique de plein emploi, le National Health System, donc un système de santé nationale, et l'État donc a un énorme rôle, contrairement à ce qui se passera en France où on va parler plutôt de démocratie sociale et où Larocque souhaite, il connaît très bien le système beveridgien, et il dit moi je veux pas de ça, moi je veux plutôt donner aux représentants la gestion par les intéressés. C'est aux intéressés eux-mêmes qui vont devoir faire leur éducation de gérer toutes ces masses financières énormes.
D'où l'idée d'une démocratie sociale au sein de la sécurité sociale, et dans votre tribune publiée dans Le Monde, vous dites qu'il s'agit là plutôt d'un échec de ce point de vue-là,
oui,
en France.
Tout à fait. Et Larocque le reconnaît, ça s'est très vite pas bien passé.
C'est très intéressant ce que vous avez dit, Dominique Méda, puisqu'il y a à la fois une notion très philosophique, finalement c'est à l'État d'assurer au plus grand nombre possible, et non pas seulement aux travailleurs, un filet de sécurité. Ça, on pourrait se dire, c'est une raison d'État, c'est quelque chose de très philosophique, on se dit que c'est une façon d'assurer la paix. Mais derrière cette conception philosophique, vous l'avez dit, bon, il y a des enjeux politiques, vous avez dit, nous, en France, bon, voilà, il y avait les communistes, mais aussi une partie de la droite qui marchait main dans la main aussi à cette époque-là. Et puis, il y a un troisième échelon qu'on pourrait rajouter, et selon moi, il est assez fondateur, c'est l'état du débat entre économistes aussi. Cette vision-là, elle correspond aussi à une fonction économique, elle correspond à la vision d'un économiste, en l'occurrence John Maynard Keynes, qui avait quand même largement infusé à cette époque-là, au sein des années 40. Dans quelle mesure, finalement, ce soutien des individus, il passe aussi par une conception d'une politique de la demande, finalement. On se dit, si on soutient la consommation, ce sera bon pour la croissance. Est-ce que c'est ça aussi qui prévaut?
Vous avez absolument raison. Keynes est central. Et d'ailleurs, Beveridge va écrire un autre texte très important et encore plus inspiré par Keynes en 1944, qui s'intitule « Full Employment in a Free Society », le plein emploi dans une société libre. Et il montre bien que pour que tout ça marche, il faut le plein emploi. C'est absolument nécessaire, sinon la société va aller mal. Et pour avoir le plein emploi, il faut que l'État, en permanence, injecte des dépenses publiques dans le système. Et tout ça marche terriblement bien parce que on va injecter vers ceux qui ont la plus forte propension à consommer, donc les plus faibles. On va leur donner de l'aide, en quelque sorte. Et donc, tout ça va alimenter le système. Donc ce qui est formidable, c'est que le social et l'économique vont dans le même sens.
On pourrait presque se dire que c'est une forme de politique intéressée aussi de la part de ceux qui la mettent en place.
Bien sûr, tout à fait. Et c'est aussi une forme de stabilisateur, hein, la politique sociale. Et c'est ça qui va exploser dans les années 70.
C'est avant cela une vision qui tout de même infuse, alors on l'a vu selon des modalités différentes en Grande-Bretagne, en France, c'est une philosophie aussi qui est formalisée, voire institutionnalisée à un moment précis que vous identifiez dans votre ouvrage, puisqu'en 1944 a lieu la déclaration de Philadelphie. Quelle vision défend cette déclaration et surtout qui la soutient ?
Alors, c'est ce qu'on appelle, vous avez tout à fait raison, le consensus de Philadelphie. C'est l'Organisation internationale du travail qui s'est réunie à nouveau presque à la fin de la guerre à Philadelphie pour renouveler la charte qui est fondatrice de l'Organisation internationale du travail. Et ce consensus de Philadelphie, il reconnaît que les acteurs sont un peu myopes, un peu faibles, que l'état de salarié nécessite protection et que il revient à l'état et à la société d'organiser cette protection.
Cela dit, Dominique Méda, vous parlez de consensus, c'est un terme qui m'a fait un peu tiquer parce que quelques lignes plus loin dans votre ouvrage, vous parlez évidemment d'un autre économiste, Friedrich von Hayek, qui la même année, en 1944, publie un ouvrage qui a marqué aussi la discipline, La route de la servitude. On ne peut pas vraiment dire qu'il se rallie à cette vision-là. Pourquoi parler de consensus alors même qu'il y a quand même un certain nombre d'économistes qui commencent à tirer la sonnette d'alarme et à se dire non, ça ne marchera pas.
Oui, c'est vrai, mais Hayek est complètement minoritaire à l'époque. Donc il écrit La route de la servitude en 1944, qui est un livre extraordinaire parce qu'il est réfugié au Royaume-Uni et il dit, oh là là, le péril est énorme là qui est en train d'arriver. Et qu'est-ce que c'est que ce péril? Est-ce que c'est par exemple les Allemands ou... Pas du tout. Le péril, c'est le rapport Beveridge, justement, et son planisme, l'intervention de l'État. C'est-à-dire que Hayek, c'est quelqu'un qui considère que l'État ne doit pas intervenir. En 44, sa pensée est minoritaire. En 47, il crée la société...
Déjà beaucoup moins, oui.
En 47, il crée la société du Mont Pèlerin et ses idées vont cheminer, se déployer, se développer jusqu'à arriver à l'autre consensus en 1980, qui est le consensus de Washington, qui est en tout point différent du premier. J'emprunte cette présentation que je trouve très, très, très heuristique, très intéressante, à François-Xavier Mérien, un sociologue qui a beaucoup travaillé sur ces questions.
Nous parlions de Friedrich von Hayek, qui effectivement, c'est aussi un espèce de parcours de carrière qui lui donne une forme de légitimité, hein, jusqu'en 1974, recevoir le prix de la Banque de Suède, soit le prix Nobel d'économie. En 1984, il s'exprimait, je vous propose de l'écouter.
Entendez-vous l'écho?
You know, he was one of the cleverest men I knew, but he was not really a very competent economist at all. He had strong intuitions, which sometimes were right, and strong conviction that he could get over any theory which he invented to justify his particular recommendations.
Aliette Ovine.
La voix donc de Friedrich von Hayek qui, en 1984, rendait un drôle d'hommage à John Maynard Keynes en disant que c'était un très grand homme, un homme très intelligent, mais un piètre économiste qui avait de bonnes intuitions et des convictions très fortes, mais quitte à inventer des théories pour les justifier. On voit que c'est un peu un hommage en demi-teinte, même oui. Si dans cette même interview, il disait qu'il était très ami avec Keynes. Donc bon, voilà, c'est des choses à remettre dans leur contexte. Dominique Méda, on a établi que Hayek a une peur, ou en tout cas fustige largement l'idée de la planification. De fait, les idées de Keynes aussi, d'une certaine manière. Mais donc ça, c'est pour la critique. Mais que propose-t-il? Que met-il sur la table pour lui? Qu'est-ce qui est en mesure d'organiser la société de façon satisfaisante?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il revient en fait en deçà de 45 et du consensus de Philadelphie et du keynésianisme, bien sûr, puisque lui pense qu'il y a deux sortes d'ordres. Il y a un ordre spontané, naturel, et un ordre construit par les humains. Et il pense que les humains sont incapables de construire un ordre social aussi puissant, aussi intéressant, aussi générateur de réussite que l'ordre spontané. Donc, il faut pas d'intervention de l'État et surtout pas les petites interventions de l'État sur les prix, etc.
Est-ce qu'il revient aux origines de cette incapacité humaine finalement?
Ce qui est intéressant, c'est que en fait toute l'histoire du 19e siècle, si on le regarde du point de vue des politiques sociales, ça a été une lutte contre la pensée libérale. La pensée libérale a résisté pendant des décennies à l'intervention de l'État. Par exemple, première loi qui fixe le droit du travail, c'est la loi sur le travail des enfants en 1841, mais elle n'est pas appliquée. Ensuite, il faudra attendre 1898 pour qu'on ait la première loi sur les accidents du travail. Et on va avoir une pensée libérale, contractualiste, individualiste, qui refuse d'intervention. Il y a par exemple une formule magnifique de Gay-Lussac, pendant le débat en 1840 sur le travail des enfants. Gay-Lussac dit « l'établissement, l'usine, est un sanctuaire qui doit être aussi sacré que la maison paternelle. Donc l'établissement, c'est à moi, c'est à celui qui le possède, et personne ne doit venir mettre son nez. » Et donc, avec Hayek, on revient là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qu'il faut laisser faire, en fait.
Mais au nom de quoi? Parce que l'activité économique, on va dire, toucherait une fibre plus présente chez l'être humain?
Parce que les humains ne seront jamais assez intelligents pour construire une convergence, un mouvement qui soit aussi... Ils feront tout dérailler, les humains, en fait.
Ce qui est un constat comme un autre, en tout cas une intuition. On comprend, Dominique Médac, si l'être humain, l'homme, avec un grand H, n'est pas suffisamment intelligent, on va dire, pour produire cette coordination à un haut niveau. Une autre instance, une autre institution peut le faire, c'est celle du marché, vous l'avez dit. C'est la façon d'organiser la meilleure coopération entre les citoyens. Un homme, un penseur est revenu sur cette distinction entre citoyen et agent économique, puisque finalement c'est de cela dont il s'agit, autrement dit entre la société civile et l'homo economicus. Cet homme, c'est Michel Foucault qui, le 31 mars 1979, abordait la question dans son cours au Collège de France, Naissance de la biopolitique.
Vis-à-vis de l'homo economicus, le souverain ne se trouve pas dans la même position que vis-à-vis du sujet de droit. Le sujet de droit peut bien, en effet, du moins dans certaines conceptions ou analyses, apparaître comme ce qui limite l'exercice du pouvoir souverain. En revanche, l'homo economicus, il ne se contente pas de limiter les pouvoirs du souverain, jusqu'à un certain point, il le déchoit. Il le fait entrer en déchéance, au nom de quoi ? D'un droit auquel le souverain ne devrait pas toucher ? Non, c'est pas ça. Il le déchoit dans la mesure où il fait apparaître chez le souverain une incapacité essentielle, une incapacité majeure et centrale, une incapacité à dominer la totalité du domaine économique. Vis-à-vis du domaine économique dans son ensemble, vis-à-vis du champ économique, le souverain ne peut pas ne pas être aveugle. L'ensemble des processus économiques ne peuvent pas ne pas échapper à un regard qui se voudrait un regard central, totalisateur et surplombant. Nous allons limiter en quelque sorte géographiquement la souveraineté du souverain et nous allons fixer à l'exercice de son pouvoir une sorte de frontière. Il pourra toucher à tout sauf au marché. Le marché comme, si vous voulez, port franc, espace libre dans l'espace général de la souveraineté.
Alors nous avons dit que l'être humain n'était pas suffisamment intelligent, n'était pas en capacité finalement de se coordonner, de faire société. Mais là, ce que nous dit Michel Foucault, c'est presque plus grave, Dominique Méda, c'est que le souverain lui-même n'a plus cette capacité à partir du moment où le marché prend de plus en plus de place, où l'homo economicus devient de plus en plus légitime. Il est nécessaire que certaines choses échappent à l'État qui ne peut pas tout et donc est déchu. C'est ce que nous dit Michel Foucault, c'est un tournant tout de même.
Absolument, et donc c'est le début de ce que va raconter Michel Foucault dans cet ensemble de cours sur lesquels je reviens dans mon livre et que je trouve mais absolument fascinant. On a l'impression que tout y est. On est quand même en 79, il est dedans, hein. Il est dans l'époque et il voit parfaitement se dérouler les choses. Donc, il fait une genèse du néolibéralisme. Hein. Il regarde comment cela naît en Allemagne avec Ludwig Erhard. Il regarde comment aussi ça s'est déployé avec le colloque Walter Lippmann. Il regarde ce qui se passe aussi aux États-Unis. Et il montre ces différentes manières de faire, ces différentes convergences. Et moi, ce qui m'a passionné dans ce qu'il raconte, c'est la manière dont il montre que en fait, l'État, il a bien une fonction. Hein. C'est pas que l'État disparaît, pas du tout. L'État, il est là pour organiser le cadre qui va lui permettre de disparaître. Le cadre qui va permettre à la concurrence de jouer pleinement son rôle. Et d'une certaine manière, Foucault nous dit donc que l'État est sous la surveillance du marché, mais l'État, voilà, il a comme pur rôle de fixer ce cadre. Et après, il faut plus toucher à rien. Et c'est ça qui est absolument passionnant, parce que, et il explique en matière de politique sociale ce qui va se passer, c'est-à-dire que il montre comment en 45 on veut intervenir, on veut corriger les choses, redistribuer le revenu national, etc. Et il montre comment cette idée est devenue absurde. Et il revient sur un cours, il revient sur un rapport d'élèves de l'École nationale d'administration qui est fait en 65, et dans lequel les élèves de l'ENA disent « Mais en fait, cette sécurité sociale, elle est très gênante parce qu'elle bouleverse complètement les équilibres économiques. Elle n'est pas neutre. » Et ils montrent combien c'est cette idée de neutralité qui va être essentielle.
Et Dominique Médé, il y a un tout petit point sur lequel je voulais insister avec vous, et notamment parce que vous avez cité Ludwig Erhard. Mais ce que Foucault montre aussi à ce moment-là, c'est que le consensus entre les citoyens, le consensus social, désormais, il se fonde aussi sur une autre notion qui est celle de liberté. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut se dire qu'il y a un tournant, qu'un État légitime, un État qui remporterait, on va dire, l'adhésion. C'est un État qui garantit à chacun la liberté d'agir comme il l'entend.
Tout à fait, c'est ça qu'explique Foucault dans le texte que nous avons entendu, hein, et cette nouvelle forme de gouvernementalité où ce qui compte, c'est la possibilité, cette circulation, cette liberté entre les acteurs économiques, et c'est ce qui fonde en effet le consensus.
Alors vous avez parlé de ce fameux rapport des élèves de l'ENA, hein, qui s'interroge sur le bien fondé de cette sécurité sociale. Il faut dire que ces années 70 sont des moments de grand bouleversement. On pourrait se dire qu'il y a une forme de triomphe aussi, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage du néolibéralisme. En 1963, Karl Schiller, futur ministre fédéral de l'économie socialiste, qui est lui-même socialiste en Allemagne, prône le renoncement à toute forme de planification. Et vous l'avez dit, c'était notamment ce que prônait Friedrich Hayek. Et puis en 74, cette fois en France, un projet fiscal d'un genre nouveau est porté par Lionel Stoléru et Christian Stoffeis. Et je vous propose justement d'écouter la voix de Lionel Stoléru au micro de Jacques Chancel. C'était le 25 novembre 1974. Il était alors conseiller économique de Valéry Giscard d'Estaing.
Ma philosophie personnelle, c'est-à-dire je considère que le vrai problème, c'est la pauvreté absolue. Et cela me conduit naturellement donc à un type de solution qui est du genre économie de marché dans lequel nous vivons. Pourquoi suis-je plus axé sur le problème de la pauvreté absolue ? Parce que je considère que l'essentiel du problème de la pauvreté, c'est un problème de dignité, qu'il faut que chaque homme ait sa dignité. Moi, je vis en regardant ma situation à moi-même. Je considère que l'essentiel des problèmes de chacun, c'est de regarder ses problèmes sous son angle personnel, et qu'il ne faut pas avoir l'œil rivé constamment sur son prochain. Il faut, bien sûr, dans une certaine mesure, avoir une politique de l'ensemble de l'échelle des revenus qui soit cohérente avec la vision sociale, mais il ne faut pas en faire l'objectif social prioritaire d'une nation. N'est-ce pas ? Liberté, égalité, fraternité, ça me paraît meilleur que envie, convoitise et jalousie comme devise nationale.
Dominique Rimeda, vous riez à l'écoute de cette archive de Lionel Stoléru en 1974, qui cette année-là met sur la table un projet d'impôt négatif. Finalement, ce qu'il dit aussi dans cette archive, c'est ce dont on discutait un tout petit peu plus tôt, cette idée que finalement ce n'est pas la lutte contre les inégalités, ce n'est pas prendre aux riches pour donner aux pauvres qui compte, mais c'est juste d'assurer un niveau moyen d'existence à tout le monde, sans pour autant faire de la justice sociale un objectif en soi. C'est tout de même, là encore, une espèce de forme de tournant, Dominique Rimeda.
C'est en effet Foucault voit dans cette intervention et dans cette proposition d'impôt négatif un véritable tournant. Et c'est comme ça qu'il explique qu'on a complètement changé les objectifs de la politique sociale. Il raconte que notamment longtemps, les objectifs de la politique sociale, ça a été le plein emploi, poursuivre le plein emploi à tout prix. Et maintenant, on passe dans un autre système où l'État ne doit plus intervenir, mais on va fixer un seuil en dessous duquel, donc seuil de pauvreté, en dessous duquel, en effet, on pourra donner un revenu aux gens. Et Foucault explique qu'on va ainsi créer, inventer une sorte de population flottante qui jouera comme une armée de réserve et qu'on pourra utiliser à escient quand on en aura besoin. Et ça, c'est absolument passionnant. Donc, c'est là vraiment qu'on sort du consensus de Philadelphie, quoi, hein. On n'a plus une politique sociale qui vise vraiment à redistribuer et à faire des interventions très clair et très sectoriel sur la santé, la protection sociale, l'emploi. En fait, la seule politique qui puisse marcher, c'est la croissance. Et la croissance et rien d'autre.
Ce qui pose une très vaste question. Qu'est-ce qui se passe quand on se rend compte que la croissance n'est plus au rendez-vous, ce qui advient dans les années 70 avec les crises pétrolières, et ça c'est un peu contraint et forcé, et puis qu'est-ce qui se passe quand on dit volontairement que la croissance n'est pas un horizon souhaitable parce qu'on se rend compte des dégâts environnementaux qu'elle provoque. Dominique Rimeda, c'est aussi arrivé au tout début des années 70, il y a bien évidemment le rapport Meadows de mars 1972, et puis quelques mois plus tôt, en février 1972, c'est un autre homme qui met sur la table un constat assez alarmant aussi. Cet homme, il vous tient beaucoup à cœur, vous m'en avez parlé lors de la préparation de cette émission. Et qui est-il et pourquoi a-t-il autant marqué votre ouvrage et puis votre pensée, Dominique Rimeda ?
En fait, donc, il s'agit de Sico Mansholt, un socialiste néerlandais qui est depuis 1958 à la Commission européenne. Et là, en 71-72, il est vice-président de la Commission européenne chargé de l'agriculture. Il a mis en place des plans très productivistes, il n'est pas très aimé. Et il lit pendant les vacances de Noël les bonnes feuilles du rapport Meadows, du rapport The Limits to Growth. Et il est complètement bouleversé parce que, comme vous le disiez, on est en pleine contradiction, quoi. D'un côté, on a absolument besoin de croissance, c'est devenu le cœur du processus. Et de l'autre côté, on s'aperçoit que la croissance, elle entraîne des dégâts absolument énormes sur l'environnement. Et c'est ce que dit ce rapport Limits to Growth.
Et donc, se pose la question de comment on génère des passions positives, de comment on propose un nouvel horizon.
Voilà. Et donc, j'aime beaucoup ce Sikoman Scholl parce qu'il s'empare de cela. Il opère une véritable conversion. Hein, et il écrit au président de la Commission européenne, son collègue, et lui dit qu'il faut organiser la bifurcation écologique de l'Europe. Il dit que seule l'Europe est capable de faire ça. On est 6 pays à l'époque. Il va y avoir en 72 un référendum pour passer à 10. Mais en fait, la Norvège ne rentrera pas. Mais bon. Et donc, il dit à son président, voilà comment on va organiser la bifurcation écologique de l'Europe. Et il y a un petit plan, les éditions des Petits Matins ont republié cette lettre qui est absolument fabuleuse parce qu'on pourrait mettre en place ce programme aujourd'hui. On n'a pas besoin de rien changer. Le problème, c'est que cette lettre fuite et que Georges Marchais s'en empare.
J'avais une archive de Georges Marchais très en colère.
Ah,
effectivement.
Voilà.
On n'aura pas le temps.
Georges Marchais s'en empare. Il est très en colère et il va utiliser cette lettre de Mansholt pour instrumentalisé en faveur du non au référendum.
Mais parce que Mansholt disait, en tout cas c'est la façon dont Marchais l'a interprété, mais parce que Mansholt disait ce sera moins de confort matériel pour les familles, ce sera une restriction aussi de la consommation des ouvriers.
Mansholt parle même de croissance zéro et même de croissance négative.
Sans parler de la question de la démographie, de la réduction des naissances qui avait quand même beaucoup fait...
Tout à fait, ça avait beaucoup fait jaser, en effet.
Ce qui est de fait un point problématique, on le disait... 1972, Mansholt, on est en 2025 aujourd'hui, Dominique Méda. Est-ce qu'on a échoué à proposer cet horizon enthousiasmant qui permettrait de passer à autre chose que la croissance pour produire ce consensus social?
Ah bah, on a complètement échoué. Si vous entendez tous les discours d'aujourd'hui, hein, on ne nous parle que de croissance. Alors certes, la croissance, je dis ça souvent, hein, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. La meilleure des choses parce que ça a donné des progrès gigantesques. La pire des choses parce qu'on sait que là, en ce moment, on creuse notre tombe écologique.
Merci beaucoup, Dominique Méda. Nous ne finirons pas forcément sur une note positive, mais je recommande aux auditeurs, aux auditrices la lecture de votre ouvrage Une société désirable, comment prendre soin du monde, paru chez Flammarion en coédition avec France Culture. Et tout de suite, restez avec nous puisque nous retrouvons l'économiste et historien Arnaud Aurin qui, comme chaque lundi, tire pour nous le fil de l'écho.
Merci beaucoup.
Lorsqu'il n'y a, pour un produit ou un service, qu'un seul vendeur, on dit qu'il est en situation de monopole. Ces monopoles sont-ils le mal absolu? Jusqu'ici, le clivage était clair. Pour les libéraux, il faut les supprimer et imposer la concurrence dans tous les secteurs. Pour les économistes de gauche, il y a au contraire de bons monopoles, notamment dans l'énergie et les transports. Mais aujourd'hui, ce clivage vole en éclats. Vous avez peut-être entendu parler de Peter Thiel. L'homme est l'un des gourous de la Silicon Valley. Proche de Trump, il a fait la carrière du vice-président J.D. Vance et est tout l'opposé des économistes de gauche. Or, dans son livre intitulé « De 0 à 1 », Thiel écrit, je cite, « que le capitalisme et la concurrence sont opposés ». Thiel est très clair, il promeut tout simplement les monopoles. Pourquoi ? Parce que sans rivaux, avec des décennies de super-profits, ces monopoles luttent contre les firmes des rivaux systémiques, traduisés contre les géants chinois. Pour les plus féroces capitalistes contemporains, les monopoles, c'est l'avenir. Comme toujours, l'histoire nous enseigne qu'il n'y a pas de linéarité. Au XVIIIe et XIXe siècle, la majorité des économistes fustigeaient les monopoles. Ces firmes écraseraient les consommateurs sous des prix prohibitifs. L'absence de concurrence les conduirait à la paresse. Après la Seconde Guerre mondiale, les monopoles dans l'énergie, le ferroviaire et la téléphonie étaient au contraire jugés efficaces et justes. Mais au début des années 1980, patatras. Des économistes américains inventent la théorie des marchés dits « contestables ». Les monopoles redeviennent l'ennemi. Seuls les rails ou les lignes à haute tension peuvent éventuellement rester en monopole. Les trains qui roulent sur ces rails et l'électricité qui passe dans ces lignes peuvent, eux, être mis en concurrence entre plusieurs firmes. D'où la dérégulation des années 80, qui se poursuit encore aujourd'hui. Peter Thiel ne regrette pas les monopoles publics. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces arguments en faveur des monopoles privés remontent bien avant l'économie dirigée. Au XVIIe et XVIIIe siècle, on faisait la promotion des monopoles parce qu'ils étaient facteurs d'union et de cohésion nationale contre la concurrence appauvrissante de négociants stupides et querelleurs. Comme le disait un journal en 1720 à propos du gigantesque monopole que devenait la Compagnie des Indes, « Les Français ne détruiront plus les Français ». Leurs énormes profits devaient permettre d'innover et d'investir dans l'industrie. Enfin, ces monopoles devaient permettre d'imposer certains prix et certaines conditions aux autochtones des lointains. Ils étaient un instrument contre les puissances étrangères. Si de nos jours la politique de la concurrence est décriée en Europe, c'est parce qu'elle ne permettrait pas l'émergence de champions européens face à ceux de la Chine et des États-Unis. Il faudrait faire des Airbus des batteries, des Airbus des missiles, j'en passe. Car de fait, c'est toujours la même histoire. Quand le monde se fragmente, les monopoles redeviennent un instrument privilégié des capitalistes. Certainement pas, cependant, au service des peuples comme après-guerre.
Merci beaucoup Arnaud. Le fil de l'écho, c'est un podcast à retrouver sur l'application Radio France et sur le site de France Culture. Une page lui est dédiée. Et pour retrouver cette émission et toutes les références dont nous avons pu parler aujourd'hui, et elles furent nombreuses, c'est sur la page d'Entendez-vous l'écho que ça se passe. Un grand merci à Tina Young qui a préparé cette émission, à Sorge Leroy qui l'a réalisée et à Timothée Hubert qui l'a mise en onde aujourd'hui.